21h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de Résonance Magnétique.
Résonance magnétique.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Résonance Magnétique, le scanner sonore de la conscience humaine. Ça y est, Ramoncho commence déjà à faire du bruit. Si certains en cherchent, d'autres en souffrent. On ne sait pas très bien comment le définir et quelle relation entretenir avec lui, mais il est au centre de notre vie, même quand il est absent. Instrument de torture d'un côté et source d'épanouissement de l'autre, on a toujours un avis sur le travail et sur les valeurs qui le sous-tendent. Si le rapport au travail a changé, si plus personne ou presque n'a envie de s'engager dans une entreprise pour la vie, ni d'occuper un poste qui ne lui convient pas, personne ne le rejette jamais absolument. Le travail, c'est la santé, ou du moins une manière de trouver du sens quand il est adapté à ce que l'on veut pour soi-même. On quitte alors un poste de chargé de communication pour monter un restaurant en profit d'une période de chômage pour faire de la musique. On monte des projets, des entreprises, on tourne des films et on s'engage dans des associations. Il n'y a pas une manière de travailler, mais il y a bien au contraire autant de manières de travailler qu'il y a de travailleurs, salariés, indépendants, bénévoles, intermittents, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs et artistes, même pour du beurre. Chercher du sens dans son travail et un travail qui aurait du sens n'est-ce pas un luxe offert par la vie moderne? Tout le monde peut-il faire le choix d'un travail sensé? Pourquoi certains parviennent-ils à s'épanouir dans un travail quand il est pour d'autres le responsable de maux aussi bien physiques que psychologiques? Qu'est-ce que le travail aujourd'hui? Que devrait-il être? Comment donner du sens à son travail et laisser le travail donner du sens à notre vie? Pour réfléchir avec nous à cette question, nous recevons ce soir Solène Mulet, 22 ans et demi. Après avoir enchaîné les petits boulots, elle a obtenu son diplôme d'infirmière et un poste dans un hôpital. Bien qu'elle aime son métier, elle a choisi de quitter son poste à l'hôpital parce qu'elle ne s'y sentait pas bien. On en discutera avec elle. Solène a gagné sa place dans l'émission en nous appelant lors de l'émission précédente. Si vous voulez en faire de même, n'hésitez pas à nous appeler au... Tu connais le numéro, Ramoncho ?
Non.
Il est là. Combien ? Quel est le numéro pour nous appeler ?
01.
Oui.
72.
Oui.
63.
Oui.
Plusieurs fois 63 ?
Non, une seule fois
63.
01, 72, 63, 46.
84. 02, 22,
22. 01, 72. On pourrait faire que ça hein, pendant une heure.
Ah, 0, un vrai boulot,
01, 72, 63, 46. 84. D'ailleurs, on m'a dit que je parlais trop, donc je ne vais faire que chiffrer aujourd'hui.
D'accord. Chiffrer. Avec une voix sensuelle à chaque fois, quand donc, on donne un numéro de téléphone, comme ça on a envie que ce soit un peu sensuel, c'est marrant.
Solène, c'est ça ?
Oui, bonsoir.
Ouais.
Alors, le nom de famille était un peu rapide.
Solène Mulet.
Tout à fait.
Attends, voilà. Je vais te remonter ton micro.
Pardon, c'est moi qui l'ai baissé en fait.
Comme les poissons ?
Oui, c'est ça.
Vous connaissez le mulet ?
Oui.
C'est excellent comme poisson. Non ?
Comme les ânes aussi. Moi.
Oui, exactement. Et ma mère, si je peux faire un peu de...
Le rapport mère Mulet.
Ma mère s'appelle Anne Mulet, c'est assez drôle. Quand même.
Ah ouais, c'est pas mal. Très,
très elle s'est mariée.
C'est ses parents qui étaient drôles. Ah non, c'est le mari.
C'est le mari, oui.
Et le mari, Jean Mulet.
Marc Mulet.
Marc Mulet.
Peut-être qu'il m'écoute, je sais pas d'ailleurs.
Elle a misé sur le bon cheval.
Effectivement. C'est Résonance Magnétique, vous êtes avec nous jusqu'à 22h30.
Peut-être.
Résonance magnétique. Bon, on va parler du travail ce soir. Ouais. Alors peut-être on pourrait faire un tour de table d'abord pour savoir quel est le travail de chacun d'entre nous. On commence par qui, Philippe. C'est quoi ton travail?
Ah bah, oulala, c'est compliqué. Alors mon travail, c'est de travailler et
oui.
Bah, je fais plein de trucs en fait. Enfin, je sais pas si j'ai vraiment un travail en fin de compte. J'ai jamais considéré ça comme un travail. C'est plutôt un plaisir. J'ai l'impression d'aller tous les jours.
Parce qu'un travail, c'est supposé ne pas être un plaisir, c'est ça?
Ben oui, j'ai l'impression. Enfin, comme est pris le travail en général, c'est toujours ouais, il faut que j'aille au boulot. Enfin, c'est un truc. Alors que moi, pour moi, c'est un luxe absolu. C'est génial, quoi. C'est tous les jours, j'y vais, c'est extraordinaire.
Est-ce que toi, tu vas à ton travail ou est-ce que au contraire, tu travailles chez toi?
Non, je travaille partout. Moi,
non, mais lui, il a de la chance parce que c'est le travail qui va à lui.
Mais le problème, c'est
génial.
C'est surtout que vient chez lui en disant s'il vous plaît, travaillez avec moi. Non, mais c'est vrai.
Ah oui, ça c'est du luxe.
Non, mais c'est un vrai luxe. Ah ben j'ai un luxe.
Il a soumis la planète au challenge de la qualité.
C'est-à-dire
que si quelqu'un veut de la qualité, il faut aller travailler avec Philippe. Il n'y a personne d'autre en France. En Europe, peut-être, c'est même pas sûr.
Tu le payes pour faire ta promotion.
Mais en France, il n'y a personne qui a le sens comme lui de la grâce.
Oh là, alors là.
Et de l'élégance.
Il est tout
judo, c'est affreux, horrible.
Non, parce que c'est
tu me mettrais mal à l'aise.
Son travail, c'est mettre en valeur une idée, un concept. Donc tu peux dire quelle est ton... Alors voilà, la question aussi qui me travaille, c'est la différence entre métier et travail.
Bah, c'est
voilà,
ça.
C'est ça. Ouais, ouais.
Alors quel est ton métier?
Donc je suis graphiste, en fait. Je fais des livres d'art pour... Enfin, je suis metteur en forme de livres d'art. Voilà, exclusivement de livres d'art.
Comme on est metteur en scène, c'est-à-dire qu'il va régler la lumière, il va régler le rythme, il va régler le support...
Enfin oui, tous ces trucs-là, et c'est un plaisir tous les jours, quoi. C'est vraiment génial, on bosse avec des gens différents chaque fois, on apprend tous les jours.
Mais c'est ce qui devrait être le travail.
Bah oui, c'est ça, c'est la question. Bon, qu'est-ce qu'est le travail et qu'est-ce que ça
donc,
devrait être
chers auditeurs, maintenant, ouvrez les yeux, parce que j'ai apporté ce livre, vous voyez ce livre. Et pour moi, il est essentiel, on va en parler tout à l'heure.
Ouais.
Pour l'instant, vous pouvez le regarder sans dire ce que c'est.
Non, je dis pas.
Ben non, parce que sinon,
on peut décrire peut-être la couverture.
Non, même pas.
Elle est blanche et rose.
C'est pas une couverture
non, elle est pas...
particulière, mais ça lève la...
Non, c'est en plus, c'est un type formidable. Je ne dévoile rien.
Tu vas y aller, je crois, Gramachot.
Non, parce qu'il n'y a qu'un seul grand Charles en France, quand même.
Ouais.
On en parlera tout à l'heure. Solène, alors le travail.
Oui, moi je suis plutôt contente de mon métier.
Ouais.
Même si je pense que pour dire je fais tel métier, il faut l'avoir fait pendant un certain temps, je pense.
Pourquoi
c'est vrai que par rapport à moi, j'ai encore du mal. Je dis quel est mon métier. Moi, je suis infirmière. Je suis diplômée.
Mais infirmière
d'État.
En quoi?
C'est infirmière en soins généraux, en fait. Parce qu'après, on peut se spécialiser, mais il faut avoir fait 2 ans d'abord d'activité.
Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est les généraux, les militaires. Que les militaires.
Voilà, je ne soigne que les gradés.
Voilà.
D'abord, on fait 2 ans dans le domaine hospitalier, et ensuite, on peut choisir de se spécialiser, soit en étant infirmier anesthésiste. Alors là, pareil, il y a encore un concours, une formation de 2 ans, soit infirmière puéricultrice, ça c'est 1 an, ou bien infirmier de bloc, et c'est encore 2 ans concours et 2 ans de 2 ans d'école, mais on peut très bien se spécialiser en restant dans un même service, on devient spécialiste au bout d'un moment.
Ce qui vous intéresse, c'est quelle spécialité?
Moi, par rapport à mes stages que j'avais fait, c'était l'oncologie qui m'avait bien intéressée. Mmh. Et c'est sûrement ce que je vais faire dans les mois qui viennent. Donc, je suis assez contente. Mais c'est vrai que c'est quand même un métier qui est très, très varié, dans le sens où on a énormément d'endroits où on peut aller travailler. C'est pas forcément dans le domaine hospitalier. On peut travailler à domicile aussi, en étant libéral, par exemple, mais aussi en faisant des soins à domicile plus classiques.
Ou en psychiatrie.
En psychiatrie aussi, ouais, tout à fait. C'est vraiment très très varié. On peut aussi aller travailler dans les prisons, en milieu carcéral. Mmh. Et il n'y a pas de, on gagne pas plus d'argent. mais c'est autre chose. C'est sûr que ça peut freiner. Moi, par exemple, je pense pas que j'irai travailler en milieu carcéral, mais j'ai pas mal de, je connais quelques personnes de ma promotion qui ont envie un jour de travailler là-bas. Et il y a énormément de choses à faire. En fait, c'est vrai que c'est très varié, donc. Et puis en plus, quand on commence, je dis que je suis infirmière, mais ce sera peut-être dans quelques années où j'aurai vraiment eu beaucoup d'expérience, etc. Où je pourrais peut-être me sentir un peu plus. C'est pas que je me sens pas légitime, mais c'est une histoire d'expérience que j'ai que 6 mois d'expérience, en fait.
Donc, et alors, pourquoi t'as choisi ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir infirmière?
Quand j'ai décidé ça, c'était suite à un cours que j'avais eu d'un professeur qui avait dit, professeur d'histoire qui avait dit, oui, moi je pense qu'il y a deux grands, grands métiers, des beaux métiers dans la vie, c'est enseignant et infirmière. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, ça a été comme un déclic, même si ma mère est elle-même infirmière, en fait. Donc, mais j'en parlais pas tellement avec elle, c'était pas du tout... Moi, à l'époque, je voulais être journaliste quand j'avais 15-16 ans. Et je sais pas, ça a fait tilt. Et puis on commençait à parler à l'école d'orientation, de débouchés, de qu'est-ce que vous allez faire de votre vie. On nous disait déjà, ça va être dur, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, ben voilà, quelque chose de concret, entre guillemets, même si je savais pas du tout de quoi je parlais. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, qui était un petit peu comme une porte de sortie sûre, entre guillemets, parce que je savais exactement ce qu'il fallait faire, passer un concours, 3 ans d'école et avoir un métier, quoi. Et...
Mais c'est concret, quoi.
Voilà, c'est ça. Et je me suis un peu attachée à ça en me disant, de toute façon, je ferai ça. Et j'ai passé 3 ans au lycée et ensuite, j'ai tenté les concours. Et bon, il y avait aussi, au-delà de ça, hein, au-delà de tout ça, il y avait le fait de, voilà, que ce soit un métier technique, parce que quand même, un infirmier, c'est un technicien quand même. Hein. Il y a plusieurs actes paramédicaux. On fait même si les médecins ont leurs actes médicaux, nous, on a quand même beaucoup d'actes qui sont propres à notre rôle propre et notre rôle prescrit. C'est tout ça, c'est du jargon de ce qu'on trouve dans les manuels. Quoi,
prescrit
Oui, en fait, par exemple, une prise de sang, il faut qu'elle soit prescrite. Les médicaments qu'on distribue sont prescrits, donc là c'est notre rôle par rapport aux médecins. Mmh. Sinon après tout ce qui est soins de confort, relations d'aide, ça c'est le rôle propre, on n'attend pas que ce soit prescrit pour
c'est moi qui respire comme ça.
Peut-être que tu as un problème avant de
donc oui, c'est parce que je savais aussi que c'était quand même un métier où il y avait beaucoup d'opportunités, dans le sens que je savais que si je veux un jour par exemple partir à l'étranger, faire du humanitaire par exemple, c'était ça aussi à l'époque j'étais un petit peu dans un délire hippie quand j'avais 16 ou 17 ans.
Mais heureusement,
oui.
Voilà, justement.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir cet esprit de liberté quand on a cette tranche l'âge? Parce que la tranche l'âge, c'est quand même quelque chose d'important.
C'est-à-dire ce que tu veux dire, la même chose, c'est pourquoi seulement à cet âge-là et pourquoi pas après,
voilà,
c'est ça?
Voilà, pourquoi est-ce qu'on dit aux gens, voilà, bon, là c'est normal, t'es adolescente, tu vois?
Non mais surtout,
on avait qu'une frange...
Une frange, la
tranche l'âge et
qu'après il y a les enfants et le crédit, quoi.
Mais chose, c'est le fils de Giscard d'Estaing. Franche l'âge.
Il a un fils d'ailleurs, Giscard d'Estaing. Oui, ça doit vraiment être dur. Allez, une minute de compassion.
On peut pas s'arrêter de parler pendant une minute, c'est trop long.
Il paraît que c'est quand même le président de la République qui a quand même commis le plus de crimes politiques.
Ah oui, c'est vrai que c'est tout à fait le sujet.
C'est un métier. Comment
tu auras gagné? Alors d'abord,
c'est une fonction. D'ailleurs, ce n'est pas un métier.
D'abord, je voulais.
Figure-toi, ce n'est pas une profession, c'est une fonction uniquement.
Je voulais juste rebondir sur ce qu'elle a dit. Elle parle de la question d'un métier technique, c'est ça?
Oui.
Mais la magie de ce métier-là, c'est justement pas du tout du côté technique.
C'est dans l'humain.
C'est bien plus important, que le médecin. Et parce que souvent, les médecins, il faut quand même dire la vérité. Ce qui leur intéresse, c'est d'avoir une voiture débile et de sauter les infirmières.
Peut-être pas tous, mais
grande majorité.
On en parlera à la fin de cette émission.
Non, mais je veux dire, alors que dans le métier d'infirmier, il y a une question, justement, encore une fois, de grâce. Comment encore pour toi, tu vois, il rougit automatiquement.
Quand tu dis grâce, ils se sont tout de suite.
Mais parce que ça lui rappelle la grâce antique, tu vois, avec toutes ces sculptures un peu flasques.
La franche l'âge, ouais. C'est la franche l'âge et la grâce antique.
Voilà. Non, mais c'est ça qui est merveilleux. Ce métier-là, infirmière, c'est vraiment le métier par excellence qui peut être accompagné d'une manière d'être. On en parlait tout à l'heure parce qu'on est allé manger avant de se mettre au travail.
Pardon.
Et on parlait de la question justement du musicien. Le musicien, c'est pas que celui qui fait de la musique.
Ah bah oui.
Il y a une manière de faire son travail en musicien. Mmh. Par exemple, un vrai musicien, pas ceux qui sortent de l'Opéra Bastille, un vrai musicien. On voit que c'est un musicien.
Ça sort, t'es vraiment, t'as envie de casser tout le monde. Hein,
sa façon de travailler. Non, mais c'est, je veux dire, il faut
se faire des ennemis.
Mais non, mais il faut se positionner dans la vie. C'est pas parce qu'on est d'une façon qu'il faut rester de cette façon-là. C'est pas parce qu'il y a des médecins qui font leur métier d'une manière, ou comme il y a des musiciens qui font leur métier d'une façon médico-légale, pour revenir à la question. D'ailleurs, au sujet de médico-légal, je suis allé à l'anniversaire l'autre jour d'une copine médecin légiste.
Ah oui, vous avez mangé quoi?
Non, mais elle a fait sa fête d'anniversaire à la morgue.
Ah, c'est sympa ça.
Et le dress code, c'était d'être habillé en vampire.
Sympa.
Et c'était génial. À la fin, vers 3h du matin, quand tout le monde sortait habillé en vampire, on essayait d'arrêter les taxis. Et évidemment, tout le monde fuyait. Et donc, on est en train. Donc, même ça, même la morgue, il y a une façon de travailler.
Tous les métiers.
Donc la question, c'est pas la question du métier, c'est la question de la façon d'eux.
Ouais, moi j'ai une question quand même qui m'a interpellée quand Solène parlait, c'est cette idée qu'à 16 ans on est censé avoir déjà l'idée de ce qu'on veut faire plus tard, comme si en plus on était obligé de ça serait figé à jamais. À 16 ans tu dois dire il y a même des trucs d'orientation, tu peux aller voir conseiller d'orientation. À l'école on te dit il faut que tu aies un métier,
on a des rendez-vous,
tu saches où tu veux aller, c'est ça, tu prends des rendez-vous et tu dois faire des stages et des machins et en fait c'est extrêmement angoissant.
C'est assez angoissant. Je me rappelle que il y avait une espèce de vague d'inquiétude au moment on doit remplir, c'est la dernière année du lycée. Nos vœux. Et moi, je me rappelle que justement, j'étais passée outre tout ça parce que dans ma tête, c'était facile, enfin facile, c'était clair, quoi. Alors que tous mes amis, d'un coup, se sont mis à se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Et voilà, et je pense que à cette époque-là, ouais, j'ai pas vécu ça vraiment, même si je m'en rendais compte par rapport aux autres. Et c'est aujourd'hui, en fait, maintenant que j'ai mon métier, etc., que je me dis, en fait, oui, c'est tôt pour choisir 18 ans, 17-18 ans, c'est assez tôt. Et au Danemark, je crois que beaucoup d'étudiants font d'abord un an après le bac, l'équivalent du bac chez eux, ils font un an ou deux ans à voyager
de césure.
Et après, quand ils reviennent, d'après les statistiques, ceux qui ont voyagé un peu trouvent leur voie, entre guillemets, et ceux qui ont voulu enchaîner, la plupart, en fait, je sais plus quels sont les pourcentages, ils changent, ils s'arrêtent, ils reprennent, voilà. Mais après, c'est peut-être, il faut avoir aussi les moyens de le faire, mais.
Il paraît. On m'a dit.
Oui. Ton petit doigt.
Vas-y.
Non, je voulais te dire, est-ce que vous saviez, vous, ce que vous vouliez faire quand vous aviez 16 ans ?
Moi, je sais toujours pas ce que je veux faire. Je fais ce qui se présente, mais il paraît qu'à Cuba, on peut changer de métier à n'importe quel moment de sa vie et que c'est l'État qui va prendre en charge ce changement.
Mais là aussi, Pôle emploi t'aide à changer de métier ?
Ah oui ?
Ouais, j'ai un ami qui, justement, vient de changer de métier et est en train de préparer ses concours d'infirmier et maintenant est en école d'infirmière.
Bravo,
pour devenir infirmière.
Félicitations.
Et du coup, il a même réussi son premier semestre. D'ailleurs, si il nous écoute, on le félicite. Bravo. Ça m'étonnerait qu'il nous écoute.
Il est dur le premier en plus. Hein.
Ouais, voilà, je dirais bravo. T'as eu le premier semestre. Et donc, du coup, tu sais, on peut changer de métier.
Moi, j'aimerais vous lire quelque chose. Est-ce que je vous lis maintenant ?
Est-ce qu'on écoute de la musique d'abord ?
Non, on va lire.
On écoute de la musique un peu, quoi.
Si tu veux.
Parce qu'il est déjà 21h20, on n'a toujours pas écouté de musique.
Non, il est 21h18, arrête de mythomachier.
Et Philippe, il a prévu.
Mythomache tout.
La soirée néologisme.
C'est une mythomachine. C'est pas possible.
Mais moi, j'amène des disques, pourquoi ? Hein ?
Alors,
ouais,
voilà.
C'est ça, le pauvre. À chaque fois, on écoute deux disques alors qu'il en amène 42.
Non, tu lis.
Sinon, on peut faire les deux.
Tulipe. Alors, Tulipe. Je voudrais vous
Tulipe,
faire.
Tulipe, Philippe.
Vous faire glisser en 1801.
Ah.
C'est bien, c'est 1801.
L'année érotique.
Encadré.
Pardon.
801. 801, c'était un groupe assez érotique d'ailleurs, avec Phil Manzanera.
Oui, Phil Manzanera.
Et Brian Eno.
Exactement.
Tu l'as pas là ?
Si, 801.
Avec une version de Babies on Fire.
Oui, je me rappelle très très bien.
C'était
mais
bien.
Je l'ai pas. Je l'avais le disque, mais je l'ai plus. Ça, j'avoue que c'est un des trucs que j'ai vendu.
Tu t'en es désemparé.
Eh oui. Mais je me souviens du 801 live, effectivement.
Encadrer la société 2. Je pourrais faire des prises comme dans le cinéma. Encadrer la société 3. Encadrer la société. Et pour cela, calmer les esprits, fixer les règles du jeu social et à moyen terme, tenir la jeunesse. Bonaparte, pour qui la religion n'est pas le mystère de l'incarnation mais celui de l'ordre social, comprend qu'il faut réconcilier l'État et le catholicisme qui tient au cœur de la plus grande part de la population. Il négocie donc, non sans peine, en 1801 avec Pie VII, Ça l'a fait rire.
C'était
inévitable.
Mais c'est à cause de tout à l'heure.
Mais non, mais
ça aurait dû le dire en italien.
Pio sette.
Voilà.
Bon. Encadrer la société.
Oui. Bon, on a perdu notre animatrice.
Cinq.
Voilà. Il négocie donc, non sans peine, en 1801, attention au rire, avec Pie VII, un concordat qui, aux yeux du pape, comble le fossé qui s'était creusé entre la papauté et les Français. Vas-y, mets la musique parce que là, on va pas
faire
un break.
Ouais.
Allez, balance le numéro 1.
Attention. Oh yeah!
Philippe.
Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est. D'abord, je vais vous dire le thème ce soir de ce que j'ai fait. Ce sont des reprises. Donc, c'est sur le travail, puisqu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont écrit
et
un
vous,
morceau.
Et vous avez vu la façon dont ils travaillent. C'est ça qui est intéressant. Ils sont méga motivés.
Non, mais c'est vrai.
Ben oui.
Si le chauffeur d'autobus conduisait avec grâce et avec groove,
ben oui.
Il saluerait le gendarme qui le laisse passer dans une petite danse.
Voilà.
La caissière nous raconterait un poème au moment de lui donner l'addition. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre comme ça?
Moi, un jour, une caissière, elle m'a dit « Est-ce que vous voulez un sac pour votre livre ?» Et j'ai dit « Non, merci ». Elle m'a dit « Choisir, c'est renoncer ».
Ah, pas mal, c'est bien, dis donc.
C'est, ah ouais, d'accord.
Alors, 01-72-63-46-84, 01-72-63-46-84.
Donc, je crois qu'il y a Philippe qui est en train de dire quelque chose.
Donc le thème ce soir, c'est la reprise, donc c'est les morceaux
la
écrits
reprise,
par quelqu'un.
Très,
la reprise, mais pas la reprise de François Hollande, parce que je n'y crois pas 5 minutes. Mais donc, le morceau qu'on vient de passer, je vous laisse le découvrir. C'est-à-dire que c'est un musicien évidemment très très connu qui reprend ce morceau.
Moi je dirais même fort célèbre.
Fort célèbre, Land of Thousand Dances, donc il reprend ce morceau et ben, vous allez, je vous le dirai plus tard, mais pour l'instant je ne dis rien.
C'est ça, il faut appeler pour, ça, pour nous dire qui a fait cette reprise. Et si vous retrouvez qui a fait cette reprise, vous aurez un cadeau.
En 1965.
En 1965 au 01 72 63 46 84. Voilà, vous pouvez nous appeler 01 72 63 46 84. Ramon Jou, tu voulais finir.
Plus 33. Si vous vous appelez de l'étranger.
Voilà, plus 33 1 72 63 46 84 si vous appelez de l'étranger.
Alors je peux finir.
Et j'en
mon
profite
avec
pour dire que nous n'avons pas de standardiste.
Ah
donc,
oui.
c'est moi qui prendrai les appels. Je suis le réalisateur de cette émission.
Ah, c'est Étienne qui parle derrière la vitre.
Donc du coup, peut-être que je peux rater cet appel. Du coup, n'hésitez pas à renouveler si jamais nous ne répondons pas tout de suite.
Ah oui, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un répondeur
un
d'abord.
Oui.
C'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, vous êtes tombé sur le répondeur de Radio Campus Paris, mais c'est pas grave, il faut vous en foutre et il faut continuer à essayer d'appeler.
Oui,
ça marche normalement.
Mais comment vous parlez?
C'est un peu Radio Bricolo.
Pardon.
C'est...
Oui, c'est Radio Bricolo, oui. On travaille ici, monsieur. Bénévolement, mais on travaille.
Donc je continue mon histoire avec Bonaparte ou pas?
Ah oui, si tu veux, oui.
Vous voulez mettre la virgule?
Je ressors mon oreiller.
La popotée de de Picette.
Alors, il négocie donc, non sans peine, en 1801 avec Picette, un concordat qui, aux yeux du pape, comble le fossé qui s'était creusé entre la papauté et les Français et ceux de Bonaparte, en reconnaissant la religion catholique comme celle de la majorité des Français. Réinsère le clergé dans la structure de l'État. Les deux parties y voient tant d'avantages que Picette ferme les yeux sur des articles organiques que Bonaparte ajoute unilatéralement pour calmer les anciens révolutionnaires, que tant de capucinades exaspèrent. Alors les capucinades, ça vous dit quelque
chose ?
C'est
des trucs des capucins, quoi.
Voilà, c'est quoi les décapucins ? Il y a le capucin et le décapucin ?
Non, décapucin au pluriel. Un capucin, un décapucin.
Et il fait quoi le capucin ?
C'est le mari
de la
capucine.
C'est un sorte de moine, là, enfin, un truc, non ?
Mais c'est le mari de la capucine.
et on appelle ça des capucinades.
Voilà.
Bah ouais, c'est ça, comme des ramonchinades, quoi.
Dis donc. Donc, pour sortir du désordre des systèmes juridiques issus de la monarchie et de la République, on tire la synthèse qui répondait à la mentalité du moment et à la volonté du premier consul. Le Code civil des Français, dont les 2281 articles publiés en 1804 affirment la fin des privilèges, la pleine reconnaissance du droit de propriété, l'autorité du chef de famille, la femme voit ainsi régresser son statut par les droits nouveaux reconnus aux hommes, et la liberté du travail, celle qui favorise l'employeur aux dépens de l'employé. Et la société trouve là, pour deux siècles, son cadre juridique.
Mais c'est pas exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
Enfin ! Les écoles centrales, par une discipline trop lâche, une insuffisante insertion dans la culture classique, menacent de donner vie à une jeunesse mal soumise. Sans en revenir au collège dont le modèle se trouve chez les jésuites, on opte pour la création de lycées dont la discipline militaire avec uniforme et tambour, l'enseignement fortement orienté vers les langues anciennes, la soumission aux autorités administratives, prépare un avenir plus sûr et des serviteurs plus dociles de l'État.
C'est beau. C'est vrai, ça. Donc, vous voulez mater les jeunes un petit peu, là, parce que c'est quand même du n'importe quoi.
C'est le meilleur des mondes, non
ça fait quand même froid dans le dos.
Bah oui.
Oui, bah, oh, en même temps, on n'est pas loin.
Je sais qu'en ce moment, sur M6, il y a quand même une émission des jeunes retournent à l'armée, quoi.
Oui, exactement.
Ils sont à l'armée.
Oui. Ils sont complètement à l'armée.
Ils sont à l'armée. On peut du coup se poser la question, surtout d'un coup, pourquoi la religion ressurgit comme ça, quelle qu'elle soit. Je veux dire, si on devient croyant, soit musulman, soit catho, soit machin, finalement, ça empêche de faire la révolution. Ça fait une jeunesse bien soumise à une foi.
Non, oui, entre ça et la télévision, on a tout gagné, quoi.
Mais donc, c'est peut-être dans la façon de travailler que la révolution peut arriver.
Mais en même temps, je crois qu'elle est un peu en train d'arriver, cette révolution. Enfin, quand tu regardes un petit peu comment les gens travaillent aujourd'hui, tu sais, et cette idée d'ailleurs que plus personne n'a envie de travailler 50 ans dans la même entreprise, qu'aujourd'hui, justement, les jeunes ont intégré l'idée du marché du travail où en fait on peut les virer à n'importe quel moment, donc ils s'auto-virent à n'importe quel moment en disant mais moi j'ai pas forcément envie de travailler pour un patron toute ma vie et pour celui-là en particulier toute ma vie, donc si j'ai envie de me barrer, je me barre. Et donc il y a quand même un truc qui a un peu changé, quoi. Et puis cette idée de. On voit apparaître quand même du coworking, des gens qui essaient de bosser ensemble, des travails collectifs, il y a quand même de plus en plus de choses qui sont en train d'être, je pense.
Plus l'ubérisation, comme on dit, puisque c'est le terme à la mode.
Mais il y a aussi l'ubérisation de la société. Ouais. Alors ça, c'est plutôt sale, quand même.
Ouais. C'est bizarre.
Ouais, ouais. Il y a toujours des travers. Mais c'est vrai que, tu vois, genre, le nombre... Bon, après, c'est un truc très parisien, je pense, mais le nombre de gens autour de moi qui ont quitté un poste, je sais pas, voilà, par exemple, de chargé de com ou de marketing ou de pub ou trucs comme ça pour faire des boulots créatifs.
D'ailleurs, vous vous êtes reconverti.
Oui,
dire.
Absolument. J'ai eu une reconversion.
Oui, qu'est-ce que tu faisais avant ?
J'ai travaillé pendant 15 ans dans les grandes agences de pub parisiennes.
T'as vu, il est bien avec son auréole.
Et un jour, je commençais déjà à faire des catalogues d'expo pour j'avais entamé un boulot, donc ce boulot-là. Et je travaillais avec David Hockney pour le Centre Pompidou. Et je trouvais ça tellement génial de travailler avec lui.
David,
le grand peintre. Bon, et donc j'étais tellement bien avec lui que j'ai quitté mon boulot. Le lendemain, j'ai laissé la clé sous la porte et je suis parti.
Donc, ben voilà.
En fait, j'ai quitté du jour au lendemain mon boulot. Donc, tu vois,
et c'était quand ça alors ?
C'était en 1994, je crois.
D'accord. Non, parce que c'est vrai que c'est un truc qui se voit de plus en plus où les gens quittent leur boulot. Bah, par exemple, c'est ce que tu as fait, Solène. Tu as quitté ton travail, pas pour changer de métier. Mais ouais. Parce que ce travail te convenait pas.
Voilà, mais par contre, c'est rigolo parce que dans ma promotion, on n'était pas uniquement des jeunes qui sortaient du bac, où il y avait pas mal de gens qui avaient fait, qui étaient par exemple dans le commerce. J'ai un copain qui était vendeur de logiciels, enfin qui était dans une grosse entreprise, etc., et qui s'est reconverti complètement. Bon, pas vraiment du jour au lendemain parce qu'il fallait voilà, qui négocient des choses, puis qui choisissent, voilà, il y avait quand même des choses à faire, des démarches à faire. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis, donc qui se retrouvaient à reprendre leurs études et partir avec, voilà, des gamins, quoi, parce qu'on avait 18 ans ou 19 ans la plupart, et il y avait des gens qui avaient 35, 40 ans, je crois que la doyenne, elle avait 52 ans, je crois. Ouais, donc elle a changé de métier, ouais. Je pense que ça se fait de plus en plus.
Mais de toute façon, on y revient, parce que quand on étudie par exemple la Chine ancienne,
ouais,
vraiment le métier le plus honteux, celui que vraiment on ne souhaitait à personne de sa famille de faire parce que tout le monde allait le mépriser, c'est le commerce.
Ouais.
Qui était le non-métier par excellence parce qu'il ne produisait rien.
Hmm.
Parce que générer des emplois peut-être, mais à quel prix ? Et donc peut-être qu'on peut revenir à une espèce d'éthique de la valeur de nos occupations. Parce que comment est-ce qu'on s'occupe ? Est-ce qu'on s'occupe comme un pays est envahi par une occupation ? C'est-à-dire que finalement on n'a plus de temps libre, on ne peut plus rien faire, on n'a plus le droit de fréquenter les gens, on ne peut plus avoir de libre usage de son temps, pour faire une petite publicité. Ou alors est-ce qu'on décide de justement se mettre autrement et de se rencontrer soi-même.
Ouais.
Bah, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde.
Ce qui n'est pas évident. Et puis je pense qu'effectivement, c'est quand même un truc de parisien, quoi, tu vois, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas quand même partout pareil, tu vois.
Bah, se positionner par rapport à l'État dans lequel on souhaite être, pas à l'État...
Avec un grand E, ouais. L'autre État.
Il faut choisir à un moment donné qu'est-ce qu'on veut être. Et ce n'est pas que à Paris que ça se passe. Il y a plein de... Je connais des amis agriculteurs ou psychothérapeutes qui décident tout simplement du jour au lendemain de travailler autrement, d'une autre façon, parce qu'ils se rendent compte que la vie est une et c'est l'occasion rêvée pour pouvoir être multiple. On ne va pas se soumettre à un seul mois alors qu'on a déjà 12 mois dans l'année. Non,
je ne sais pas. Non, mais ce qui est très rigolo, effectivement, c'est ces retours des métiers créatifs. Enfin, tout le monde a envie, du coup, d'un métier créatif.
Ah oui,
créatif,
mais alors ça c'est autre chose.
Mais alors, c'est vrai que, par exemple, toi qui es graphiste, Philippe, on dirait l'impression qu'à Paris, il y a 3 500 000 graphistes.
Ah, je ne sais pas, j'en connais pas, moi.
C'est vrai ? Non, parce que c'est assez rigolo.
Non, à Paris, il n'y a que lui. Tous les autres, mais ils peuvent changer de métier. Ils n'ont aucune chance de lui arriver à la
comme Philippe ne veut pas tout faire, parce que quand même, il serait trop sollicité. Il faut bien qu'il y ait 2-3 autres graphistes qui fassent des trucs qu'il ne veut pas faire.
Peut-être qu'il y a trop d'ouvrages et qu'il faut arrêter de publier autant de merde.
Non, mais il n'y a pas que des graphistes qui travaillent. Les graphistes ne travaillent pas tous sur des livres. Ils font aussi d'autres choses.
Ils sont rares à travailler que sur des livres.
Je sais pas, ils font des logos, ils font des pochettes de trucs.
Des magazines.
Des pochettes de quoi, on se demande.
Des pochettes de disques, des trucs institutionnels, genre, tu vois, la mairie de Paris, ils font appel à des graphistes. Tout le monde fait appel à des graphistes, effectivement.
C'est devenu comme l'avocat et le médecin.
C'est ça. Encore une fois, surtout à Paris, parce que dans les grandes villes.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un seul.
Mais non, mais justement, mais c'est ça qui est problématique. Je pense qu'effectivement, nous, on regarde aussi quand même avec notre. On est un peu auto-centré sur un filtre parisien et en plus du milieu culturel parisien qui est quand même pas la généralité, quoi, tu vois.
Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une seule profession, si on peut dire, où on ne change pas d'activité, c'est artiste. En général, un artiste, il est artiste jusqu'au bout. Hein. J'en connais pas beaucoup qui
sont reconvertis dans le commerce.
Si, Louis Kahn, par exemple, qui était artiste, pour le citer, artiste support surface qui est devenu
un
espèce d'antiquaire. Non, il est devenu antiquaire. Non, c'est pas Louis H. Kahn, c'est Louis Kahn, l'autre avec un C comme le canard.
Pas pour devenir trader, quoi.
Et il est devenu antiquaire, en fait. Il fait de la décoration de luxe dans les maisons niçoises.
Parce que artiste, c'est pas un métier.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi qui rêveraient d'être artistes ?
Mais ils n'ont jamais essayé. S'ils essayaient 5 minutes, ils arrêteraient de rêver très vite.
C'est un fantasme, parce que... Non, bah évidemment, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être artistes. Le problème, c'est qu'on ne s'improvise pas artiste. C'est un truc, on est habité. Hein. Ou alors, ça ne marche pas. Quoi.
Ou alors, on a beaucoup d'argent.
Oui.
Non, mais de toute façon,
il y a quelques-uns qui arrivent un bon agenda.
Mais artiste n'a rien à voir avec une rémunération. Non. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on va gagner la vie avec son art.
Non, oui, rien dans l'art.
Au contraire, la plupart des bons artistes le font justement comme acte.
Gratuit.
On parlait, je ne sais plus quand, c'est avec toi. Non, je ne sais plus avec qui je parlais. À qui je parlais aujourd'hui ? Avec un ami qui regrettait de ne pas avoir enregistré, par exemple, Bernard Heitzig, qui était un poète sonore absolument merveilleux, mais qui avait un métier à côté.
Ah bah oui, il était obligé d'avoir un boulot.
Volman, qui est sans doute un des artistes les plus étonnants du XXIe siècle, il avait décidé de faire comme métier un petit catalogue des galeries. Enfin, c'était, il faut pouvoir s'inventer un métier rémunérateur pour avoir la liberté de pratiquer son existence comme on veut, soit un jardin, soit une... Et quelqu'un qui en parlait très très bien. Qu'est-ce qui a un bon accent anglais, toi, tiens?
Oula, Buckminster Fuller.
Toi, comment tu dirais ça?
Oula.
C'est Buckminster.
Tu prononces pas le R avant?
Vas-y, vas-y.
R Buckminster Fuller.
Buckminster Fuller. Ça, c'est les Allez. Français et leur accent anglais, quoi.
Buckminster Fuller.
Ouais, c'est bien, bravo, c'est, voilà,
donc on peut dire quand même que la France est très bien placée au niveau international. on peut peut-être ne plus s'étonner pourquoi ça marche aussi bien à l'export.
Bah oui.
Tu vois. Et donc ça, c'est un livre merveilleux qui s'appelle... Manuel d'opération pour le vaisseau spatial Terre.
Oui, parce qu'il fait de la traduction simultanée. Ça, le livre, très, l'édition très est originale, donc c'est une édition anglaise, américaine, c'est pardon. Ouais. C'est un génie, hein, Buckminster Fuller. Alors,
je trouvais que Ramoncho est un génie.
Alors, non, Ramoncho aussi.
alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce monsieur, qui est donc un des plus grands penseurs quand même,
oui, c'est un mec
du XXe siècle, incroyable, n'a jamais été traduit en français. Seulement en 1986, il y a eu une seule première édition.
Oui, il y a eu une édition là, récemment. Enfin, c'est une biographie de Buckminster Fuller, donc il n'est pas traduit.
Mais c'est complètement fou. Et ce type est absolument génial. Il décrit exactement que comme nous sommes en train de voyager dans le temps, on voyage dans l'espace, donc on est déjà sur un vaisseau spatial, et que s'il faut aller loin, si on veut aller loin, il faut s'occuper de ce vaisseau spatial. Mais ce vaisseau spatial, il commence par nous. Mmh. Et puis notre façon d'être par rapport à notre travail, par rapport à ce qu'on souhaite faire de cette existence.
Et à notre environnement, etc., évidemment, parce que c'est, il parle de ça aussi.
Alors à propos, je pense qu'on pourrait parler de Louis maintenant, puisque tu parlais de Louis.
Musique un petit coup.
Ouais, c'est bon, ça, alors, musique un petit
donc
coup.
Donc là,
Louis.
C'est parti.
01 72 63 46 84.
Ouais, vous pouvez nous appeler surtout.
01 72
63 46 84.
Alors, on ne présente plus Louis Louaille, morceau...
On ne présente plus.
Bon, c'est un morceau ultra connu. Il y a eu quand même 1200 versions différentes de Louis Louaille qui ont été créées depuis sa création, donc en 1956, par Richard Berry. Donc là, on écoutait le Rice University Marching Band. Tu vois, mon accent n'est pas si mal.
Hey.
Et donc, ça a été enregistré en 1983. Voilà, on écoutera plus tard une autre version de Louis Louaille.
Et donc, vous voyez la question de la fanfare.
Ouais.
C'est quand même super important. Je veux dire, la fanfare, c'est de faire de l'art, finalement. Et c'est n'importe quel citoyen fait partie de la fanfare. Aujourd'hui, Mélanie, est-ce que vous faites partie d'une fanfare?
Non, mais j'ai fait partie d'une fanfare quand j'étais jeune.
Ah, voilà. Mais pas en France.
Non, en Suisse, je faisais du cornet à piston.
Voilà.
Ah oui, c'est pas vrai.
Et non, moi non. Mais j'aurais bien aimé.
Mais vous rendez compte comme c'est chouette de pouvoir se mettre tous ensemble à faire quelque chose d'inutile. Arrêtons d'être utile.
Ouais, moi, je suis tous les jours.
Lutter contre l'efficacité.
J'ai une activité totalement inutile. Moi, je suis tout à fait conscient d'être absolument inutile. Et j'en suis assez content. En fin de compte, je ne culpabilise pas du tout. Mais c'est vrai, vive l'inutilité.
Tu avais quelque chose à dire?
Non, pas du tout.
Le luxe, c'est l'inutilité. C'est un vrai luxe.
Ce soir, je suis au chômage, moi.
Vous avez raison. C'est quoi? Alors, justement, cette question du chômage.
Oui.
Hein, chômer un âge, c'est là d'où ça vient en fait.
Exactement.
Vous saviez ce que c'est la chôme?
Après le fanchage, hein, qu'est-ce que t'as dit?
La chôme, c'est se fonder sur les toits, la paille, être sur la paille en
voilà,
fait.
Voilà, c'est de mettre, c'est mettre son âge sur la paille.
Voilà.
Et donc comme on est sur la paille, on peut en profiter pour prendre son temps et apprendre de nouvelles choses.
C'est vrai que c'est chouette le chômage quand même.
Mais il faut revendiquer cet nouvel usage du chômage.
Mais je pense qu'on le revendique assez bien, le nouvel usage du chômage. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui utilisent le chômage comme un petit temps de transition pour faire autre chose.
Oui, il y a ceux aussi qui sont anéantis.
Il y en a beaucoup qui sont abattus parce qu'ils n'ont plus de raison sociale.
Bien sûr.
Tu vois, là, tu as une réflexion très parisienne quand même.
Bah, c'est très parisien peut-être. Non, mais effectivement, ça peut être très difficile à vivre le chômage, mais tu peux aussi essayer
sûrement
de...
Sûrement même.
Oui, certainement. Je pense
que... C'est peut-être par rapport à l'image que les gens...
Oui, absolument. Non, parce qu'il y a tellement, il y a une telle valeur sur le travail. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Ouais, travailler, ouais. C'est être inséré à la société. Être au chômage, c'est être totalement en dehors de la société. Mm-hmm. C'est absolument
aussi,
terrible.
Tu peux aussi choisir le chômage.
On a culpabilisé les gens. Oui, absolument.
Oui, mais bien sûr, mais il y a toujours cette image. D'ailleurs, il y a même des gens qui préfèrent travailler et gagner moins que ce qui toucherait au chômage parce qu'il faut absolument
travailler. Oui.
Ah, moi, j'ai plutôt rencontré le contraire. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui souhaiteraient plutôt... rester au chômage parce que finalement travailler pour gagner à peu près la même chose, oui, ça les fatigue.
Mais c'est pour ça qu'il faudrait faire un revenu de base, universel,
revenu
où on
n'aurait
plus jamais
absolument
à travailler pour gagner sa vie et que si on voulait travailler, ce serait juste pour le plaisir.
Bah, Fourier, il en parle, il dit que normalement, il faudrait l'économie d'un pays, s'il ne privatise pas tout, évidemment, permettrait à chaque individu de travailler une ou deux journées pour la communauté et le reste du temps apprendre et partager les savoirs.
Ce serait génial.
Mais c'est génial, il faut juste le mettre en pratique.
Bah, ouais.
Et ce qu'a fait Solène en refusant de continuer sur ce territoire-là, sur son agencement comme ça par rapport à son travail, c'est une proposition. Et on a tous cette capacité de faire des propositions. Le pouvoir n'est absolument pas dans les mains de l'État. Jamais.
Et d'ailleurs, comment tes parents ou ton entourage ont vécu le fait que tu quittes ton travail? Est-ce qu'ils ont eu peur quand tu as quitté ton travail?
Je pense que oui. Mais disons que je pense qu'ils me voyaient tellement... j'étais pas non plus... j'étais tellement mal. Oui, j'étais pas très à l'aise. C'est sûr, quand j'entrais chez moi, j'avais pas envie d'y retourner le lendemain, etc. Donc en fait, non, ça a dû leur faire peur parce qu'à un moment, j'ai dû dire « Mais je vais changer de boulot, c'est pas possible, je vais arrêter. » Mais ils m'ont quand même ils m'ont bien soutenu. Ils ont dû avoir peur pour ça parce que je me sentais mal, mais ils m'ont pas on a un bon dialogue et c'est pas, et même autour de moi parce que j'ai d'autres amis qui ont des difficultés, qui sont dans la même branche que moi, qui ont des difficultés, et donc on a pu échanger là-dessus. Moi je suis quand même assez bien entourée, on m'a pas du tout blâmée.
Quelle chance, elle a une belle famille.
Ouais. Oui, vraiment.
Est-ce que toi-même tu t'es censurée au début, tu t'es dit non, arrête, il faut que tu pousses-toi un peu, bouge-toi
un
peu.
Oui, parce que je pensais que c'était normal de morfler. Si je peux parler comme ça, je pensais que c'était normal. Je pensais qu'il fallait passer par
voilà,
là.
Voilà la soumission.
Et en fait, au boulot, personne ne se soumettait. Là où j'étais, tout le monde râlait, etc. Mais ils râlaient, mais ils étaient là depuis des années. Moi, je me suis dit, je peux pas continuer. Moi, je râlais pas tant que ça, mais je savais que j'allais partir, quoi, parce que je pouvais pas rester. Je savais que voilà, c'était plus possible.
C'était
presque
l'ambiance du travail.
Comme des citrons. Ouais, déjà, l'ambiance de travail était pas terrible à mon goût, parce que les gens étaient fatigués, très irritables. Et c'est aussi parce que voilà, mais comme vous disiez, on a quand même affaire à de l'humain, et faut qu'on reste dans une posture bienveillante quand même le plus possible, puisqu'on s'occupe de gens qui sont mal, etc. Et c'était plus possible avec un ratio patient professionnel trop large. Enfin, c'était vraiment oppressant, quoi. Pour bien faire, il fallait faire des heures sup à chaque fois. C'est-à-dire que pour finir le boulot, après moi comme je suis jeune professionnelle aussi, forcément j'étais plus lente, hein. Mais le boulot était fait à l'arrache. Je le voyais quand je reprenais la main de quelqu'un.
Mais c'est bien de faire son boulot lentement.
Ouais, ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais
surtout,
le problème,
surtout
c'est
par rapport aux patients.
Parce que,
c'est pour ça qu'on les appelle patients, parce qu'il faut qu'ils soient patients.
c'est sûr. C'est dur, je pense, pour certains. Mais le souci, c'est que après, faut pouvoir avoir la capacité de donner de soi-même à un point où, au final, notre vie privée et puis culturelle, tout ce qu'il y a derrière, la vie professionnelle empiète sur cette vie privée. Où, moi, par exemple, j'avais du mal à sortir voir mes amis parce que je me disais, il faut que je me repose, parce que déjà, j'avais fini en retard. Et le lendemain, il fallait que je recommence. Je ne me sentais pas d'aller au ciné.
C'est le texte que j'ai lu tout à l'heure. Ah, ouais. L'idée, c'est de soumettre l'énergie. Parce que finalement, la vie, c'est avant tout de l'énergie. Mm. C'est soumettre l'énergie à quelque chose auquel on ne pourrait pas s'échapper. Mais ça, on voit la même situation chez des couples. Il y a des couples qui restent ensemble alors que ça se passe très, très mal. Et ils se soumettent à cette idée qu'ils s'imposent. Ça m'a fait sourire.
Non, pas du tout. Tu reviens souvent à la question du couple, c'est pour ça.
Parce que le couple, on pense que c'est absolument indispensable et nécessaire.
Non, mais c'est peut-être parce que c'est comme une micro-société. Alors du coup, tous les mots de la société peuvent être comparables à ceux d'un couple, peut-être.
C'est
pas qu'on peut y revenir tout le temps.
C'est peut-être aussi de décider que c'est à partir de ce territoire-là qu'on se met en position dans la vie. Déjà à l'autre tout près, après peut-être à son voisin, à son immeuble, à son quartier, à sa ville, etc.
Bien sûr.
Mais j'ai l'impression que Fourier, il en parle beaucoup dans ce livre qui s'appelle Le désordre amoureux. Il en parle beaucoup de cette question, pourquoi est-ce qu'il faudrait de la monogamie, pourquoi est-ce qu'il faudrait des mariages exclusifs, est-ce qu'il faudrait pas, et on ne pourrait pas aimer l'autre pour ce qu'il a envie plutôt que ce qu'il nous apporte à soi. Je veux dire, et c'est peut-être la société commence par là. Lui, il le place là, en tout cas. Lui, il pense que le premier rapport qu'on a avec le monde, c'est notre rapport amoureux, c'est-à-dire c'est le rapport au plaisir.
Ouais.
Et ce rapport au plaisir, il devrait être disponible aussi dans la question du travail. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se soumettre à quelque chose alors qu'on a absolument les moyens, on est dans un des pays les plus riches de la planète, on pourrait tout à fait fabriquer d'une autre façon. Pourquoi être encore dans la même ambiance qu'en 1801
à Valois ? Et encore plus, tu sais, parce qu'il y a une loi qui se prépare là, une loi sur le travail qui risque de compliquer encore les choses.
Oui, mais c'est une loi, c'est pas la loi qui fait le...
La loi d'El Khomri qui a priori est une grosse connerie.
Mais ce n'est pas la loi qui va déterminer le cadre dans lequel on va exercer notre travail. Le cadre juridique n'est pas le cadre éthique. Et chacun d'entre nous peut refuser d'une façon simple, je veux dire, le traité de Taureau sur la désobéissance civile,
oui,
etc.
Mais tout le monde n'a pas les moyens de refuser un travail, tu vois ce que je veux dire. Il y a des fois où tu es dans une situation telle que tu es obligé d'aller travailler et tu es obligé de supporter des choses qui ne devraient pas être supportables.
Absolument, mais c'est par là qu'il faut changer l'articulation.
Et bien
qu'il
sûr.
Faut, mais donc il faut remettre en cause les choses tout le temps et discuter.
Mais c'est plutôt les gens qui distribuent le travail qui devraient... c'est ceux qui ont le pouvoir, qui donnent du travail aux gens, qui devraient le donner intelligemment. Il y avait une émission sur Arte il n'y a pas très longtemps qui a été faite par Martin Messonnier, un type que tu connais, qui s'appelait, je crois, la joie dans le travail. Et c'était absolument génial parce que c'était, il avait donc fait une enquête sur des chefs d'entreprise qui étaient ultra intelligents et qui valorisaient leurs employés, qui les responsabilisaient. Ils faisaient des groupes, ces groupes s'autogéraient. Ils étaient entre eux, ils décidaient de ce qu'ils allaient faire dans la semaine, etc. Il avait constaté que la productivité avait grimpé énormément, les gens allaient au travail, ils étaient super contents, ils en amenaient même chez eux, ils travaillaient chez eux, ils appelaient sans arrêt. Quand ils étaient en vacances, ils appelaient pour savoir si ça allait bien, si on avait besoin d'eux. Enfin, tout d'un coup, c'était devenu un truc où les gens y allaient avec un plaisir absolu, et ce reportage était génial.
Je crois que c'est une...
En fait, la gentillesse, finalement... améliore le rendement et ce
absolument.
Qu'on...
Oui, c'est ça,
absolument.
T'es toi là, c'est toi, t'étais juste le réalisateur, tu fermes ta gueule, tu restes derrière la vitre.
Non mais là,
c'est
il...
bon.
Non mais il a tout à fait...
Je suis vexé.
Il a tout à fait raison, je veux dire, la question de la gentillesse, mais c'est la question aussi
c'est aussi
la question du militant.
Ouais, mais tu sais...
C'est-à-dire que quand tu regardes, par exemple, quand tu vois l'interview du propriétaire de Nike... Mais du jour au lendemain, on ne devrait plus jamais acheter une Nike.
Nike, Adidas,
j'en ai jamais acheté, Puma.
Quand on voit comment les ordinateurs sont fabriqués, comment ils polluent les trucs, mais on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur, chacun un ordinateur.
Ouais.
Il suffirait qu'on fasse le bon usage de l'ordinateur. Ce serait soit pour faire un travail créatif si on le fait avec, soit c'est juste de passer une heure par jour dessus,
seulement.
Pas plus.
Mais sur cette question-là de laisser la latitude, assez de latitude aux
responsabiliser
employés...
Responsabiliser les gens.
Et ben il y a justement cette question qui est... Ben du coup, il y a le travers de cette chose-là, de justement des gens qui n'arrivent plus à déconnecter parce que... Alors, je crois que c'est Netflix, la société Netflix, qui laisse à ses employés la possibilité de choisir combien de vacances ils veulent. Ils peuvent partir en vacances quand ils veulent. Ils
n'ont
pas de limitation de vacances. Et en fait, ils se rendent compte que les gens partent encore moins en vacances que quand ils avaient le choix.
Quand ils n'avaient pas le choix,
parce qu'en fait, ils n'osent plus partir, tu vois. Parce qu'ils se disent, oh là là, il faut que... Parce que du coup, si je suis celui qui prend le plus de vacances, tout le monde va me dire, oh là là, c'est toi qui prends trop de vacances.
Oui, mais parce qu'ils sont encore dans un truc de concurrence et de compétition.
Bah,
or,
ouais.
dans le
type, de
sortir
de ça,
or, le type, ce qu'il avait monté, il n'y avait pas de compétition. C'est-à-dire que c'était vraiment... ils étaient totalement responsabilisés. Le lundi, ils arrivaient, ils avaient un tableau, toi tu veux faire quoi, tu fais ça cette semaine, toi tu fais ça cette semaine, etc. Enfin, ils se partageaient totalement le travail et ça fonctionnait absolument parfaitement. Et effectivement, ils avaient le droit de prendre des vacances absolument quand ils voulaient. Et en fait, ça se passait très très bien parce que des fois, il y en a un type qui prenait un mois de vacances n'importe quand, puis il était remplacé, il revenait, ça se partageait. Tout ça était fait en grande intelligence et la boîte était absolument géniale. Et les types étaient en santé, ils étaient bien dans leur peau.
Ouais, ça dépend effectivement quelle est la finalité de la chose. si c'est du parce que parfois il y a du nouveau management.
Voilà, c'est ça. Ouais,
qui
c'est
encore
sous
pire
couvert
que l'ancien, quoi, c'est ça.
Sous couvert de liberté, en fait, on est fliqué. Bah, c'est les open space,
tu
c'était
sais,
ça.
Côté,
on vendait l'open space comme un truc de liberté. Or, c'était un truc de flicage, puisque tout le monde est en même temps et tout le monde est regardé.
Bien sûr.
Il
n'y
avait plus de bureau, donc on pouvait plus téléphoner tranquille. Ouais. Donc c'était tout était inversé. Or là, c'est pas le cas du tout.
Ce que font Google, Apple, etc., qui créent enfin, des grands espaces où justement tout le monde peut ne plus sortir de son boulot. La crèche est là,
ouais.
le sport est là, le cinéma est là. Et puis même maintenant, on propose aux femmes de pouvoir congeler leurs ovules pour pouvoir, voilà, pour que tout soit fait.
Tout
pour qu'en fait,
tous
les gens
des mondes,
se dédient
reparlé,
uniquement à Google, tu vois.
Oui, oui, oui.
Et là, c'est flippant, en fait, parce qu'on a l'impression, ah, ils sont sympas à Google, ils nous offrent une salle de sport. Et en fait, pas du tout, parce que l'idée derrière, elle est plutôt machiavélique, elle est pas bonne, quoi. C'est pas bienveillant vers les employés, quoi.
Absolument. Et il y avait une entreprise. Dans ce reportage, ça terminait sur une entreprise connue, c'est Harley Davidson,
ouais.
qui dans les années 80 avait été reprise par les employés parce qu'elle allait couler. Et donc ils avaient mis à la tête de l'entreprise un type qui était un des employés, mais qui trouvait absolument, enfin, qui avait une idée du travail qui leur paraissait extrêmement intelligente. Il avait repris la boîte et le type a fait de cette boîte un truc absolument génial, complètement participatif. Il avait fait une boîte à idées où chaque employé, s'il avait une idée pour une moto, pour une invention, il la mettait. Si son idée, donc il la tirait au sort, il lisait toutes les idées une fois par mois, et c'est, la meilleure idée était appliquée, et le type qui avait eu cette idée-là était évidemment récompensé, etc. Et c'était un truc mais absolument génial. Et quand ce type est parti, ça a été un gouffre, parce que le type, à un moment, il fallait qu'il parte. Il est parti
bien
à
sûr,
la retraite,
ouais.
Et du coup, Harley Davidson a été racheté, et c'est devenu une boîte lambda. Enfin, ça s'est complètement écroulé, cette
avec
histoire.
Un grand
donc ça tient
à
un
tête.
Type. Souvent, ça tient à un type.
Ça tient souvent à pas grand-chose, mais le patron est quand même la personne qui est
évidemment.
Et
donc, c'est eux, en fait. Quand on
ça.
Est patron d'une entreprise, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça. Enfin, il faut être un peu altruiste.
Est-ce qu'on laisse notre réalisateur parler ou pas,
oui,
quoi,
bah,
c'est ça. Non, mais Étienne, je suis désolée, c'était juste une blague, en fait. Tu sais, c'était pour dire, parce que tu disais, il faut être gentil, et du coup, j'ai envie d'être chaude, d'être méchante avec
elle rame au maximum.
Voilà, c'était pour t'embêter un petit peu.
Ok, bon, on passe à un peu de musique.
On va balancer le suivant.
Oui, monsieur, très bien.
Donc, c'est
toi
un
qui
indice.
Décide.
Le suivant est un indice pour le morceau, justement, dont on n'a pas donné le titre tout à l'heure.
01 72 63 46 84. Appelez-nous, bordel de merde.
Je me tais. Dans quel état tu es?
Oh, je sais pas. C'est la fatigue.
West British, South British. That's pretty close to Georgia. There's no tune in time, I can't get none. I can't get no girl
c'était quoi, Philippe, alors ?
Ah non, je dis toujours pas ce que c'est. Et c'est donc, vous avez reconnu quand même Satisfaction des Rolling Stones.
Ça aurait été dur, effectivement, de reconnaître.
Donc, repris en 1965 par, c'est à vous de le découvrir, et surtout, qui est à la guitare.
Ah, pas non, mais c'est déjà une piste.
Ah, ben non, mais je donne quelques pistes. Et si vous, si vous appelez, si vous trouvez. Vous
la marque faut trouver la marque des chaussures du batteur. Donc c'est assez facile parce qu'on entend son grincement sur la pédale.
Crutch. 01 72 63 46 84. Vous pouvez nous appeler au 01 72 63 46 84.
T'as vu comme chaque numéro annule le précédent.
La réponse.
C'est formidable quand même comme
à
chaque.
À notre question, c'est résonance magnétique. Vous êtes avec nous jusqu'à 22h30.
Ah, tu vas mettre une virgule.
Résonance magnétique.
N'importe, ça peut marcher sur n'importe quel sujet.
En lien avec le travail.
Ouais. Mais tout est la question du travail, parce que il faut être vaillant, tu vois. C'est pour ça que travaillant.
C'est bien si tu parles dans ton micro.
Travaillant.
Là, on est passé en mode. Café du commerce. Bon, déjà, on était déjà
pourquoi
dans
du commerce.
Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi du commerce? Pourquoi on dit café du commerce?
C'est toi qui dis ça. Il n'y a que toi qui dis ça. Moi, je n'en parle absolument pas ce terme-là.
Je
ne
suis pas sûre qu'il y ait que moi qui dis ça.
Il y a peut-être un commerce à côté.
Peut-être.
Café du commerce. Non, mais c'est l'idée du commerce. C'est on associe le travail au commerce.
Non, c'est faux. Toi, c'est pas vrai, je pense pas.
Tu penses pas?
Non. Alors, Solène, il paraît que tu as fait plein de petits boulots avant.
Ouais, enfin plein, oui. En fait, j'ai voulu vite gagner mes petits sous et être un petit peu indépendante. Parce qu'à l'époque, j'étais un petit peu insolente, etc. Ça se passait pas très bien chez moi. Et je voulais vite me barrer de la maison, claquer la porte et tout. Je l'ai pas fait au final. Et donc, j'ai voulu tout de suite travailler dans des petits boulots, hein, c'est-à-dire les trucs qu'on peut faire quand on a 17 ans. Donc, j'ai passé mon BAFA. J'ai travaillé dans une colo juste une fois. C'était bien, mais qu'est-ce que c'était fatigant. Là, j'ai compris un petit peu, surtout qu'à l'époque, j'avais 17 ans et ils m'avaient mis avec une tranche d'âge, c'était, je crois, 13 ans, 16 ans, un truc comme ça.
Enfin,
j'étais avec mes potes, quoi, et donc j'avais pas énormément d'autorité, donc c'était assez fatigant. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai passé, comme à l'époque, je faisais énormément de natation en compétition, etc. On avait la possibilité avec le club de passer un diplôme pour surveiller les plages. Et à Toulon, en plus, là où j'habitais, il y avait de quoi faire l'été. Donc après, j'ai travaillé en tant que. J'ai été prise en tant que vacataire sapeur-pompier et j'ai surveillé les plages de Toulon pendant deux ans.
C'est sympa, t'as fait quand même des boulots intéressants.
Oui, c'était pas. C'était à l'extérieur, face à la mer, c'était cool. Hein. C'était cool.
Ouais. Et toi, Mélanie?
Moi, des petits boulots? J'en ai fait plein, j'ai travaillé à l'usine, fromage, c'était vachement intéressant. Non, c'est intéressant, tu relis Marx autrement après, tu vois. j'ai travaillé dans des fast-food, j'ai travaillé, le pire petit boulot que j'ai fait, c'était atroce, c'était vraiment atroce. J'ai trouvé ça, je sais pas, j'étais désespérée, il fallait un boulot, et il y a ce truc-là, et alors je vais appeler les gens qui n'avaient pas payé leur facture, genre de téléphone, et leur demander de payer, c'est horrible. Oh, moi j'étais hyper nulle parce que je disais aux gens... je disais aux gens, non, mais c'est pas grave, tant pis, on va couper votre abonnement Canal+, enfin, des trucs, c'est horrible. Et du coup, moi, j'étais trop nulle.
On va enlever votre fils.
Mais je crois que j'étais la caution morale. Du coup, il continuait à me garder, alors qu'il aurait dû me virer, parce que j'ai rapporté aucun argent, parce que j'étais incapable de demander aux gens de rembourser, quoi, tu vois. Donc, du coup, c'était très, très difficile. Je pense que c'était le pire petit boulot que j'ai fait.
Toi, t'as fait quoi comme...
Oh là là, comme petit boulot, quand j'étais aux Beaux-Arts, puisque j'ai fait l'école des Beaux-Arts, avec mon ami Philippe Favier, donc un artiste... qui est assez connu. À l'époque, nous faisions des boulots, mais totalement idiots. On s'était inscrit à Manpower, donc on avait des boulots. On a installé des colonnes Maurice. On a été à un moment spécialiste de la moquette. On nous avait demandé d'installer la moquette sur un couloir qui devait faire 10 mètres.
On
nous avait demandé, vous savez faire ? Oh bah oui, on est des spécialistes. On s'était retrouvés avec des bulles énormes. Ça avait été un truc absolument apocalyptique. On avait pendu du gravier sur des... sur des toits d'immeubles, avec le vertige en plus, donc c'était assez terrible. On a fait du marteau-piqueur, détruit des escaliers. Enfin, c'était mais absolument génial. Puis j'ai travaillé au McDonald's, enfin, des trucs totalement... J'étais caissière aussi dans un supermarché.
Ah, mais ils
j'étais
ont pas voulu
caissière
de moi.
Parce que j'étais j'étais le seul type qui était en caisse. Donc j'étais caissière. Sur ma fiche de paye, c'était marqué caissière.
Et tu étais aimable ?
Ah, très aimable.
Moi, on m'a refoulé, on m'a très pas aimable. Voulu de moi quand j'ai voulu avoir un petit boulot de caissière. On m'a dit non, vous n'avez pas d'expérience.
Oh là là.
C'est très drôle. Et puis, ils m'ont dit non, mais de toute façon, on n'embauche que les enfants des employés. D'accord.
Ah bon.
Voilà. Ah ouais, voilà. Bah ouais. Tu as eu de la chance. Et toi, Étienne, tu as fait des petits boulots?
Ouais. En fait, j'ai surtout été stagiaire dans l'audiovisuel, donc c'est comme un petit boulot puisque tu fais des heures de dingue pour comment dire
pour rien. Mais c'est
pour rien parce
qu'en
plus
t'es
stagiaire,
que...
bah, stagiaire, t'es pas payé.
Ouais, c'est ça. Mais c'est dans l'audiovisuel, il y a que des stagiaires en fait. C'est un peu
ouais,
ça,
c'est
hein.
ça.
Ouais.
Et après, là, en ce moment, je suis télé-enquêteur.
Ah, c'est toi qui appelle pour dire bonjour. Qu'est-ce que voilà. vous pensez de ce produit? Est-ce que vous voudriez Ouais. C'est chiant, non, comme boulot, ça va.
À propos, pourquoi non, vous appelle pas que... pour nous demander bonjour, qu'est-ce que vous pensez de ça? On nous demande rien, en fait.
Bah, pardon, si, il y a des sondages.
Non, mais là, ici, maintenant.
Ah, ce soir. Ouais. Ah, maintenant.
Comme jamais.
Bah oui, pourquoi vous ne nous appelez pas? Bah, Étienne, toi qui es télé-enquêteur, donne le numéro de téléphone.
Non,
tu l'as pas.
Non, j'ai pas.
On l'a donné suffisamment de fois. Attends, c'est bon.
Ouais, c'est vrai. Appelez-nous, bordel.
Non, non, mais arrête de dire bordel tout le temps.
Appelez-nous, s'il vous plaît.
Je vous rappellerai. Prochaine fois, je serai pas, je vous rappellerai.
C'est ça. Non, parce que en plus, vous pouvez.
Il allait dire quelque chose, on l'a interrompu en plein élan.
Non, mais oui, je suis télé-enquêteur et il y a quand même une excellente ambiance de travail entre les télé-enquêteurs et avec les superviseurs. Donc du coup, j'ai pas à me plaindre.
D'accord.
Ça va.
Ah, mais vous êtes dans un bureau et vous, êtes tout, vous faites tous ensemble.
Ouais, c'est un open space. Ouais.
Ah oui, d'accord.
Vous open space, pas bah, tué.
On doit être une quinzaine.
Et en fait, t'appelles les gens, c'est ça, par
c'est
téléphone
ça. Bonjour, et on fait des sondages sur la musique qui est diffusée par les radios.
Ah,
ça, j'ai déjà répondu.
C'est intéressant,
fois.
Ça. Ouais. Ouais. Est-ce que tu parles de Radio Campus Paris ou pas?
Je peux pas.
Mais glisse-le là. Écoutez Radio Campus Paris, c'est vachement mieux que les autres. Blablabla. Enfin, tu vois, un petit truc quoi. Essayer de pervertir les gens un petit peu.
Attends, il a un superviseur.
On n'a pas une spice en plus.
Tu vois, superviseur, c'est chaud quoi.
C'est vrai. Et toi, Ramon Chaud, t'as fait des petits boulots dans ta vie?
Moi, j'ai fait garde du corps.
Mais de quel corps? Du corps de qui?
Du corps de mon chat. Parce que mon père adorait le balancer par la fenêtre. Donc mon premier boulot, c'était ça.
Déjà, de rattraper le chat. Mais il tombe toujours sur ses pattes, il paraît.
Oui, mais il y avait une maltraitance évidente. Et donc,
sauf
j'ai
si
fait
tu
ça.
Lui mets une tartine de confiture sur le dos, tu sais.
J'ai fait service d'ordre pour un concert, pour des concerts hippies. Donc il n'y avait absolument rien à faire. Parce qu'il avec les cheveux longs, super peace and love. Donc c'était un super job. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de mécanicien, j'ai fait assistant ingénieur du son, ça c'était pas mal, mais c'était pas un job ça. Non, j'ai jamais eu un job vraiment dans le sens passé par l'étape humiliation. Ah si, j'ai eu une fois, j'étais...
c'est pas obligatoire humiliation. Enfin,
c'était aux États-Unis, on me disait, on m'a dit, tiens, il y a un truc, c'est super bien payé, voilà, il faut... Tu dois faire vaguement un peu de musique, mais c'est bon. Et en fait, je suis allé dans l'endroit vers 5h de l'après-midi. Et on me au premier étage d'un truc, il y avait un type plutôt malsain, gourmette, poitrine velue, chemise à fleurs.
Phil Spector.
On est en 1979, un truc comme ça. Et il me dit, bon, bah, écoute, tu reviens ce soir vers minuit, une heure, et tu descends dans la trappe, là, et puis tu joues, et puis après, on vient te chercher. Alors, je dis, bon. Et je raconterai la suite si les gens appellent.
01-72-63-46-84. Appelez-nous si vous voulez avoir la fin de l'histoire.
Mais t'appelles trop vite. 01-72-63-46-84. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a marqué virgule là, mais je lis sans cesse Virgile.
Ouais,
pourquoi
mais c'est virgule.
Lis Virgile, tout
virgule.
Ça
bon, c'était déformé par l'Antiquité.
Bref. Est-ce qu'on parle un peu de musique, ouais? Ah, il y a une virgule. T'as vu comme il est réactif, cet Étienne. C'est incroyable.
Résonance magnétique.
Il fait bien son travail.
Résonance magnétique. Résonance magnétique. Résonance magnétique. Résonance.
On écoute un peu de musique encore, Philippe.
Bon, bah
ce soir,
oui,
c'est la soirée reprise. Donc, c'est
reprise,
les gens qui travaillent sur le travail des gens.
Voilà. Alors là, c'est une citation plus qu'une reprise. Mais enfin, bon, vous allez voir. Oh!
Il y a Étienne qui nous fait des gestes, comme ça on dirait qu'il nous tire.
Oui, parce
vers
que
lui.
Le micro marche plus. Il faut vraiment donner de l'argent à Radio Campus, parce que le micro
marche plus,
d'ordre
ouais,
ne marche plus.
C'est tout pété. Bon, alors vous aviez reconnu Mon nom et personne, 1973, donc Ennio Morricone, avec une citation formidable des Valkyries de Wagner. Et dans le morceau suivant, il cite My Way de Claude François et non pas Elvis Presley, comme tout le monde le pense, ou Frank Sinatra. Et dans cette, je pense que Morricone s'est donné comme contrainte de citer un maximum de choses bizarres.
Et
dans ce...
Et qui était la doublure de Claude François?
La doublure de Claude
Quoi,
François,
Claude François avait une doublure.
Qui chantait à la place de Claude François?
Mais personne, Claude François chantait. Morricone?
Non, vous ne savez pas ça?
Ben non, il chante plus même Claude François.
C'est qui, Alain Chamfort? Non, parce que je sais qu'il avait travaillé avec lui, mais bon, je ne sais pas, non. Puis je t'avoue que Claude François...
Qui était la voix, enfin la plupart des voix...
Non, attends, c'est lui qui chantait.
Pas tout le temps.
Bon, enfin...
Quand il était fatigué, peut-être, il faisait comme tous les grands chanteurs. Non, ils n'ont pas tous une... Moi, je pensais qu'ils avaient tous une doubleur.
Ah ouais,
non, non,
t'as une doubleur,
non,
t'auras
non,
mal
non,
chaud.
Non.
Moi, je ne chante pas, donc ça règle le problème. Mais vous avez vu comme quoi le simple fait de nommer l'émission sur le travail, déjà, c'est plombant. Donc, il faut trouver un autre nom, je pense, que travail.
Dire autre chose que travail ?
L'occupation.
L'occupation.
C'est bien, c'est on va travailler sur l'occupation. On va faire une émission sur l'occupation.
C'est vrai que l'occupation, c'est quand même
oui,
pas...
Oui, alors bon, voilà.
Les nazis, il n'y a pas un autre mot ?
Hein,
bah,
pas,
on dit job pour un anglais,
ouais,
tu vois.
Non, je sais pas. Moi,
du boulot.
Travail, bon,
tu problème. Dis métier, tout simplement.
Non, ouais, mais
non
c'est
métier,
pareil.
C'est pas pareil, parce qu'on peut avoir un métier, mais pas de travail. Donc
non,
c'est compliqué, c'est compliqué ce truc-là. Non, travail.
Moi, je crois qu'on en revient à la question de la passion.
Ouais.
Parce la passion comme... selon
oui,
Saint-Mathieu. Ouais.
Excuse-moi.
Non, mais je.
Tout le monde a envie de t'embêter ce soir, Ramon Chaussé.
Fruit de la passion.
Non, mais en fait.
Fruit de la passion. Oui, pardon.
Avoir la passion du travail.
Oui,
non,
mais enfin, tu sais, il y a des fois, c'est
un métier passion.
Ça, ça va dire se soumettre. Non, non, c'est pas là, c'est pas ça, là, c'est pas ça la question.
C'est quoi la question ?
Il y a des gens qui sont passionnés par leur
travail. Totalement,
c'est,
ça, bien
c'est le bonheur
évidemment,
total.
Évidemment, évidemment. Ah ouais. Mais c'est là où c'est bien. C'est pour ça. Enfin,
c'est
moi,
Philippe,
j'ai,
par exemple.
Moi,
c'est
j'ai absolument. Je ne peux pas m'empêcher. Enfin, c'est plus du travail, quoi. C'est effectivement de la passion, du plaisir, tout le temps.
Oui, mais comment tu fais quand tu as. Quand
Est-ce
tu
que la dernière
la...
fois, tu t'es pas un peu plaint
Non, non, je ne suis pas plaint. Non, pas du tout. Non, c'est vrai que ça fait deux émissions que je ne suis pas là. À cause du travail, justement, parce que j'avais un boulot qui m'occupait extrêmement. Mais c'était pas du déplaisir.
Il y avait cette personne qui t'embêtait, comment s'appelait-elle ? Cette personne qui t'empêchait de réfléchir, qui te harcelait quasiment, parce que cette personne était tellement frustrée qu'elle voulait se venger sur toi.
Mais de qui parle-t-il ?
Mais ça arrive souvent dans le monde du travail quand
mais
même, il ne faut pas l'oublier. On est toujours soumis aux frustrations des uns et des autres.
Oh, pas tant que ça.
Pas
ça
toi,
dépend,
mais toi, tu as la chance parce que tu es perché. En fait, il travaille sur un arbre.
Mais non,
il travaille sur un arbre et il a fait couler de l'huile sur la paroi de l'arbre, donc personne ne peut l'embêter.
Mais non, mais je sais pas.
Non, mais c'est-à-dire que lui.
On se met dans une situation de frustration.
Il s'est donné les moyens de pratiquer son travail avec du plaisir.
Mais il faut se donner
alors,
les moyens, c'est
comment
ça
on peut se donner les
c'est
moyens aujourd'hui de ne pas se soumettre à la machine?
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, vous deux, des conditions pour pouvoir parvenir
ça, c'est un mystère absolu.
À trouver du
parce
plaisir
que
dans son travail.
Je me dis toujours, mais comment j'ai pu réussir ce hold-up? Parce que c'est pratiquement un hold-up.
Non,
parce que j'ai quand même eu du boulot à une époque, à l'époque où je travaillais dans la pub, c'était quand même... celui-là, je me suis bien marré. Mais en fait, il faut faire les choses en se marrant. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère.
Il faut se faufiler.
Il faut se marrer.
Non, il faut se faufiler. C'est-à-dire qu'il faut être un bon faufilé, il faut être savoureux pour les gens avec qui on travaille, et finalement, les gens ont envie de travailler avec nous.
Allô ?
Non, mais ça fonctionne aussi.
Quitte à être hypocrite.
Oui. Non, surtout pas. Il faut être sincère.
Sincère.
Et non, pas sincère. Non, mais il faut être absolument sincère. Non, il faut être à tout prix sincère, justement, ne jamais être hypocrite.
Donc, s'amuser, ne pas être hypocrite, être sincère avec soi.
Non,
se
faufiler.
Et se faufiler du verbe faufiler.
Oui, se faufiler aussi.
D'accord.
Non, mais
comme
je crois que c'est important d'être faufilé.
Oui, oui, oui.
Parce qu'il faut être savoureux, il faut être sympathique, et il faut pouvoir user du au mieux des opportunités et changer de position, c'est-à-dire aider l'autre à changer d'attitude.
Par le dialogue.
Puis ben surtout, oui. Pas avoir à essayer de maîtriser son ego, mais ça, c'est pour tout le monde ici.
Voilà,
si tu
ne
maîtrises pas ton ego, évidemment, tu as des frustrations.
Attends, il lève la main parce qu'il
a
plus
de
micro.
On a un auditeur.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous
écoute. Non, c'est parce qu'on a quelqu'un qui nous appelle.
C'est un mâle ou une femelle?
Oui, c'est Martine.
Bonjour Martine.
Bonjour Mélanie.
Ça va Martine? Comment tu vas? C'était notre invitée il y a quelques temps, Martine.
Je crois. C'est la même Martine, tu crois?
Voilà. il neige. Non, il neige pas.
Non,
c'était
plus.
Seulement pour vous dire que travail, ça signifie torture.
Bah oui.
Oui,
on
ça veut, ça veut dire tortue aussi.
Tortue.
Oui, oui, en Océanie, le travail veut dire tortue. Donc quelqu'un va travailler, il y va le plus doucement possible.
Lentement.
Et parfois à reculons.
Ça, c'est le crâne.
Oui, oui, absolument. Et puis en plus, les travailleurs sont des esclaves.
Ben, pas
mais,
toujours.
Mais où ça, où ça, où ça?
Non, les gens qui pratiquent un métier avec plaisir ne sont pas des esclaves, mais les travailleurs sont des esclaves.
C'est pas gentil pour ce que pour eux.
Bah, quand même, ils ont un patron qui les exploite. Et,
oui, mais pas tous. Ah enfin, ça dépend comment le patron, encore une fois, comment le patron se comporte. Il y a des fois.
Non, mais c'est vrai qu'on embête beaucoup le patron aussi. Tu vois, par exemple, on a des amis. Par exemple, on peut citer Francis.
Bonjour Francis.
Bonjour Francis. Salut Francis.
Salut Francis.
Parce que lui, il a monté sa boîte. Il est donc son propre patron. Et finalement, on l'exploite. C'est-à-dire que la machine est faite de telle façon. Qu'on nous impose une idée de rendement, une idée déjà de spéculation, ouais. D'hypocrisie, de tricherie vis-à-vis de soi-même. Il faudrait sans cesse être dans la tricherie. C'est le capitalisme.
Mais oui, parce que Francis n'est pas patron d'une entreprise du CAC 40. Francis est patron d'une PME, c'est quand même très différent en plus. On peut pas dire que, on peut pas comparer l'un et l'autre.
Alors attends, parce que Martine souhaite sortir du capitalisme, c'est ça?
Ah ben complètement.
Alors comment?
Allez, donne-nous les clés. Bien,
il y a certaines expériences qui fonctionnent et qui marchent très bien depuis plus de 30 ans.
En Ouzbékistan?
Ce sont des lieux autogérés et en démocratie directe, qui fonctionnent très bien, où il y a zéro chômage.
Où donc?
Et une vie, sociale et culturelle extrêmement riche.
Où donc
ça peut exister.
Où donc?
Ça peut pas exister à grande échelle, mais ça peut exister à petite échelle.
Mais de toute façon, c'est ce que disait Charles Fourier, il faut, en fait, pour enlever le capitalisme, il faut décapitaliser. C'est-à-dire qu'il faut décapiter les capitales, il ne faut plus que ce soit les capitales. Non, mais les capitaux aussi, mais il ne faut plus que ce soit les capitales qui soient centrales dans des pays, mais il faut créer des petites structures.
Bien sûr.
Absolument. Donc il faut décapitaliser, comme on décapite.
Ouais.
Mais est-ce que ils vont accepter de capituler?
Ah, bah ça, ils s'accrochent.
Hein.
Les capitaliseurs.
Les
capitaliseurs.
Oui, on ne va pas
leur donner le choix.
Alors comment? Par les armes ou par les larmes?
Mais pas par les larmes, par les armes.
Par l'humour.
En refusant leur... Allô? Allô?
Oui, oui, on est
en
là.
En refusant leur système et en leur montrant que d'autres systèmes peuvent exister.
Ah ben, mais
de toute façon, il y avait les fameux anarchistes au début du XXe siècle qui avaient très bien compris... aussi.
Mais tu sais qu'il paraîtrait.
Le travail, c'était l'exploitation.
Il paraîtrait.
Vivre en marge de cette société qui devenait pourrie de plus en plus.
Mais les décroissants aujourd'hui sont, à mon avis, c'est la seule idée révolutionnaire qu'on a inventée pour l'instant.
Mais.
Oui. Mais
À notre époque, il n'y a que la décroissance qui me paraît être l'idée révolutionnaire.
Allez voir du côté de Séville une ville qui s'appelle Marina Leda.
Mais vous savez, vous savez, chère Martine, qu'en étant un petit peu paranoïaque, on peut imaginer que la Seconde Guerre mondiale a été inventée pour casser cette idée d'autogestion. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, il y a énormément de petites structures partout, y compris en France, en Picardie, en Espagne, en beaucoup de petites structures qui se sont mises en autogestion. Mmh. Et quand on regarde les histoires qui sont très difficiles à trouver, parce qu'il y a très peu d'ouvrages sur ces structures, ça a été littéralement laminé par la Seconde Guerre mondiale, et il y avait un vrai risque de changement de système entre ces deux guerres.
À ce moment-là, le capitalisme ne battait pas encore son plein comme aujourd'hui. C'est plutôt dans les années 80 qu'il a commencé à vraiment...
Non, parce que le capitalisme, il commence...
Après la guerre,
après la guerre,
bien
sûr.
Les fameuses 30 glorieuses, enfin,
on a eu la première crise du capitalisme en 80, et du coup, il est tellement rené de ses cendres qu'il en est devenu un truc quasiment imbattable et indestructible. Tu vois, alors que
libéral et donc voilà.
Alors que Marx prévoyait déjà la fin du capitalisme pour les années environ 2000 et quelques 10.
Ah bah c'est bon, on est dedans alors.
On est en plein dedans. Si Marx,
mais c'est déjà fini. Il faut voir là comment les. Enfin bon.
Bah de non raison à Marx.
Bah Groucho Marx, moi j'ai.
Ouais, Groucho Marx.
Non l'autre.
Il a fait une très belle chanson. Et on l'a pas cette chanson.
Aussi, pourquoi
la chanson de Groucho Marx. Est-ce que je l'ai pas sur mon téléphone parce qu'elle est absolument géniale.
Étienne la passera tout à l'heure.
Non, mais je ne sais pas si j'ai peut-être ici. J'ai un micro, je peux tout à fait lui dire ça.
Ouais.
Tu te souviens pas le nom de cette chanson de Groucho Marx?
Si, whatever it is, I'm against it.
Jamais entendu parler.
Elle est géniale. Chanson ouais. Groucho Marx.
On va écouter. Ah ben merci pour les petits bruits de téléphone, moi, monsieur. Merci Martine de nous avoir appelé.
Merci pour cette idée. Donc c'est quoi? Mais alors comment?
Détruisons le capitalisme, mobilisons-nous, travaillons ensemble.
Ben, en Espagne,
la démocratie
Podemos,
directe,
si c'est ça,
voilà. Donc le nouveau parti.
La démocratie directe, tout vote à main levée. Et voilà.
D'accord.
Mais l'idée de la démocratie, moi je lisais ça hier soir, etc., c'était qu'en fin de compte, les premiers votants, après la Révolution française, ils étaient 80 000. Après, bien sûr, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Après, les gens pouvaient voter à partir de l'âge de 40 ans.
Bah oui.
Monsieur Ramuncho.
Oui, madame Martine.
Je ne parle pas de cette fausse démocratie.
D'accord.
Je parle de celle...
Eh bien, voyons-nous. Il a trouvé la chanson. Écoutons cette belle chanson. D'accord. Merci, Martine,
Et puis les autres auditeurs.
Bonne soirée.
Les autres auditeurs, si vous voulez faire la révolution avec nous, vous pouvez nous appeler au 01 62 63 46 84. Et on écoute la chanson.
I don't know what they have to say, it makes no difference anyway, whatever it is, I'm against it, no matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood, whatever it is, I'm against it, and even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I'm opposed to it. On general principles, I'm opposed to it.
He's opposed to it. In fact, indeed, that he's opposed to it.
For months before my son was born, I used to yell from night till morn, whatever it is, I'm against it. And I've kept yelling since I first commenced it. I'm against it.
Voilà, c'était joli, ça finit par des petits couicouis. Peu importe ce que c'est, je suis contre.
Il faudrait peut-être qu'on donne quand même la réponse que personne n'a appelée, donc il faut qu'on
donne... Si, Martine, mais elle n'avait pas la réponse.
Oui, mais elle n'avait pas la réponse.
Elle voulait juste nous appeler à la révolution.
La marque des chaussures. C'était des kickers. Non, donc le morceau était, donc là, il y avait Satisfaction et Land of a Thousand Dances, et c'était donc Curtis Knight accompagné par Jimi Hendrix, et ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'à l'époque, Curtis Knight était donc le leader, la vedette absolue. Aujourd'hui, le disque est sorti sous le nom de Jimi Hendrix, et on a baissé la voix de Curtis Knight, et on a monté les guitares de Jimi Hendrix, alors qu'il était à l'époque juste en accompagnement. Donc voilà, donc la version de Satisfaction, absolument formidable, était de Jimi Hendrix.
Merci Philippe.
Résonance magnétique. Résonance magnétique. Résonance magnétique.
Résonance magnétique. Résonance magnétique.
Résonance magnétique.
Résonance magnétique.
Alors il ne reste plus que 7 petites minutes pour donner du sens au travail. Alors comment on fait, Solène, pour donner du sens au travail?
J'ai réfléchi là.
Ouais.
Ça
y est. Et je pense qu'il faut prendre soin de soi, c'est vrai, hein, avant de...
Ah bah oui.
Bah pour surtout quand on travaille dans les métiers de la santé, il faut d'abord prendre soin de
soi avant de prendre soin des
autres. Mais justement, la question du soin de soi, c'est vraiment la question du corps.
Voilà.
Et on crée une société sans corps, on crée une société de décor. Et du coup, on a perdu l'essence de l'être ensemble.
Et pas se laisser empiéter, pour sa santé mentale et physique. Moi, je sais que j'ai découvert le massage chinois. Et maintenant, quand j'avais mal au dos, etc., mais je pense que c'était aussi dû au mal-être psychologique que j'avais, je vais me faire masser 40 minutes. Non, je confonds, c'est 40 euros pour une heure. Donc une heure quand même. Tout le corps dans un truc chinois, un espèce de petit cabinet chinois traditionnel. Et c'est génial, ça me redonne du baume au cœur.
C'est indispensable. Et je pense que la société française, occidentale d'ailleurs, a coupé le rapport au corps. Mm. et que c'est en coupant le rapport au port qu'on se retrouve totalement émietté.
Donc il faut se réintroduire à l'intérieur de son corps et penser à son corps
Non, mais déjà s'approprier ce territoire-là,
ouais.
C'est déjà une façon de lutter contre le matérialisme et le capitalisme. Parce que finalement, une fois qu'on a découvert notre propre corps, c'est tellement immense, c'est tellement fabuleux comme espace qu'on n'a pas besoin de trouver des compensations sexuelles, de drogue, de consommation, etc.
Non, mais justement, on nous vend plein de trucs pour, des crèmes,
pour nous éloigner de nos corps.
Et des trucs pour sentir si ça peut, bon et pour
si
être
si
détendu.
Ça peut te faire du bien d'en acheter, tu vois. T'acheter une crème qui te comment il y en a plein qui
fait avec du jus de peau de chat. J'avais eu ça. J'habitais à côté de Fontainebleau à une époque, et pour certaines crèmes dont je tairai le nom, c'est une grande marque. Je crois que ça commence par un N. Ça fait Nina, je sais pas quoi. Pitchy, je crois. En fait, le fixatif des odeurs, c'est de la peau de chat fraîchement pressée. Donc il y avait des camions de chat. Pas du tout, je l'ai vu arriver.
Mais qu'est-ce que c'est que
ça? Mais c'est
Groucho Marx sort du corps de Ramuccio.
En tout cas, je suis contre
c'est
ça.
C'est du jus de chat. Du jus de chat.
Du jus de chat, c'est dégueulasse.
Mais c'est pour ça, il ne faut pas utiliser de crème. Il vaut mieux se faire masser par ces Chinois qui ont quand même 5000 ans de plus que nous.
Oui, bah, oui bon. Ouais.
En tout cas, mais merci.
On pensera à eux.
Merci Solène.
Merci à vous.
Ben non, mais il reste 5 minutes.
Ah bon on va passer 5 minutes à se remercier.
Oui, tu vas pas la remercier.
5 minutes à se remercier. Ah oui, ça y est.
Bon, ben il y a Alain derrière la vitre qui peut-être a envie de nous parler du travail.
Ben oui.
Qu'est-ce qu'il bonsoir Alain.
Oh non, j'en sors là, je vais pas vous rouler, je retravaille.
Voyez,
alors,
voilà,
comment... comment toi tu donnes du sens à ton travail, Alain? Qu'est-ce que tu fais pour donner du sens à ton travail?
Oula, mais j'aurais pas dû venir en fait. plutôt.
Ça n'a aucun sens en fait.
Ouais, alors c'est peut-être un. Pour moi, un petit sens un peu terre à terre qui me permet de effectivement de subsister. Après, je vais trouver ma passion qui est la musique, effectivement, notamment dans mes activités radiophoniques. Voilà, c'est pas une réponse extraordinaire, c'est voilà. Mais
si.
Vous me prenez de court en même temps.
C'est vrai.
Il faudrait que voilà.
On devrait t'envoyer les questions qu'on va poser dans l'émission avant pour que
c'est
tu
ça.
Puisses te préparer.
Pour que mon attaché de presse puisse regarder ça. Ouais.
Et répondre à ta place.
Exactement.
Je pense que ce serait intéressant.
Ah, ouais.
Et donc il va se passer quoi dans Future Basics ce
alors
soir
on va aller. Un petit peu outre-Atlantique puisqu'on va aller à New York puisque il y a un DJ qui un peu emblématique de la scène hip-hop française qui vit là-bas. Il s'agit de DJ Posca. Il est revenu en France pour nous présenter un projet avec des MC new-yorkais. Donc ce soir, ça va être vraiment découverte de nouveaux artistes de la grosse pomme. Voilà.
Bah ça, on aime bien. Merci beaucoup, Alain. Et
merci,
puis
bonne
émission.
Pourquoi
alors, il nous reste encore quelques minutes.
Pourquoi est-ce qu'on aime
de...
bien l'Amérique?
Pourquoi on aime bien la... Bah, je ne sais pas.
Il y a plein
pourquoi.
De trucs quand même vachement bien.
Il se passe quand même des choses relativement chouettes. Pourquoi on aime bien l'Amérique? Deuxième question.
mais ça serait un beau sujet pour une prochaine émission, notamment pour vous. Mais effectivement, alors en ce qui concerne effectivement la musique qu'on défend dans le Future Basics Radio Show, c'est le berceau du hip-hop, qui est lui-même inspiré de pas mal d'autres choses, de racines très lointaines. Ça serait très très long à expliquer, mais en tout cas pour le format musique hip-hop, c'est là-bas que c'est né, tout simplement.
Mais est-ce que une des bases de hip-hop viendrait pas plutôt d'Haïti, par exemple?
Peut-être, entre autres, effectivement.
Parce que la manière dont ils avaient d'improviser sur des faits d'actualité,
ouais.
Avec une voix non chantée, c'était absolument génial. Avec comment ça s'appelait, la soca, je crois que ça s'appelait la soca. Il y avait des trucs, mais vraiment super intéressants.
Ouais, ouais, carrément. Mais carrément, oui. C'est ça prend ses racines dans pas mal de coins du monde, et notamment.
Et en fait, c'est pas les États-Unis, c'est New York.
C'est New York, et ensuite, voilà. Ça. Après, il y a du hip-hop à Memphis, hein, effectivement, qui est un peu plus.
En Égypte, tu veux dire?
Exactement.
C'est ça. Voilà.
Bien, merci. De toute façon, on n'a qu'à écouter Future Basics et puis on en saura plus aussi,
ouais.
Un peu.
Allez, bonne soirée.
On peut se taire maintenant.
On peut mettre un tout petit peu du disque que j'ai amené.
Est-ce qu'on a le temps
3.
Là ouais.
Oui, parce que c'est une façon
est-ce
de faire.
Est-ce qu'il est
de
vraiment 22h28 et 10 secondes ou est-ce qu'on n'est pas tout à fait synchronisé
oui,
sur
oui,
les
il est bien. Il est bien 22h28. Hein.
Et 15 secondes. Ah, c'est bien, ça s'est synchronisé.
Donc c'est le numéro 3.
Et en parlant de boulot, Victor a fait du bon boulot, figurez-vous, puisque Victor est notre technicien en chef et donc il a réussi à régler ses montres et horloges pour qu'elles soient tout à l'heure. Ça va quand même pas mal.
Génial.
Bon, en tout cas, en attendant qu'il mette le disque, on va remercier Solène d'être venue dans cette émission. C'est très chouette de t'avoir parmi nous.
Dans le reggae, l'humeur dans laquelle il travaille. Et cette humeur-là, je trouve ça fantastique.
On devrait tous travailler dans cette humeur-là.
Bonne soirée.
Bonne soirée sur Radio Campus Paris. Merci à Étienne pour la réalisation de cette émission.
Je t'en prie.
Merci Philippe, merci Ramuncho, merci beaucoup à Solène. Et puis merci à tous et à nos auditeurs et à Martine qu'on embrasse. Et au travail, qui, parce que nous on travaille tous bénévolement ici, on est là bénévolement. Étienne fait des heures de réalisation bénévolement. Alain est là bénévolement, tout le monde est là bénévolement et on est tous ravis d'être là bénévolement.
La musique un peu.
Et on laisse parler la musique. Bonne soirée sur Radio Campus Paris. I need the light of love. So you got to be my church door. Hey! Look at that! Some coming from through the floor. Got to give me some more. I make a see you come to the door as I will really take you to. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word took unto Himself flesh and dwelt among Zion and His saints.